Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au fil des pages, aujourd'hui avec Anne Muratori-Philippe, correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques, qui vous invite à découvrir la mondialisation telle qu'elle s'est réalisée au XVIe et XVIIe siècle entre l'Espagne et les pays d'Amérique du Sud. Anne Muratori-Philippe, bonjour, la parole est à vous.
Le prix Auguste Gérard est un prix quinquennal décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Il récompense un ouvrage écrit en langue française sur un sujet de l'histoire diplomatique de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Belgique, de la Russie, du Japon et des pays balkaniques qui ont été alliés de la France dans la guerre 14-18 ou des États-Unis de l'Amérique du Nord. L'auteur, Serge Grusinski, couronné pour son livre « Les quatre parties du monde, histoire d'une mondialisation », est à l'heure actuelle directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Historien, archiviste paléographe, ses premiers terrains d'études ont été l'Italie et l'Espagne, avant de sauter le pas vers le Mexique où il a séjourné de longues années pour étudier l'histoire de la colonisation et analyser le comportement des Indiens face à la conquête espagnole. Il a notamment publié « La colonisation de l'imaginaire » chez Gallimard, mais aussi « Histoire de Mexico »,« Le destin brisé de l'Empire aztèque », »,« La pensée métisse » ou encore « Histoire du Nouveau Monde » avec Carmen Bernan, le tout chez Fayard. Enfin, le mélange des formes et des styles entre l'Amérique précolombienne et l'Europe de la Renaissance lui ont inspiré un magnifique ouvrage, « L'Amérique de la conquête peinte par les Indiens du Mexique ». Cet ouvrage est paru il y a quelques années chez Flammarion. Ce livre qui vient d'être primé sur l'histoire d'une mondialisation n'aurait peut-être jamais vu le jour sans l'attaque des Twin Towers de New York le 11 septembre 2001. À des milliers de kilomètres, un mois plus tard, à Belém au Brésil, 2 millions de personnes participent au pèlerinage de la Vierge de Nazareth. Du cardinal au plus modeste amazonien, toutes classes confondues, des hommes et des femmes célèbrent la statue d'une Vierge miraculeuse. Pour Serge Grusinski, la protestation la plus massive contre la destruction des tours s'est déroulée aux confins de l'Occident. La Vierge de Belém est l'incarnation vivante à la fois du métissage et d'une mondialisation vieille de plusieurs centaines d'années. Elle fait front à la première guerre du XXIe siècle. Cet événement du 11 septembre a incité l'auteur à réfléchir sur la mondialisation à partir d'une terre qui ne serait ni l'Europe ni les États-Unis. En un mot, il fait sienne la remarque de Montaigne à propos des découvertes. Notre monde vient d'en trouver un autre. Les découvertes espagnoles et portugaises ouvrent de nouveaux horizons à l'Europe. Voilà pourquoi Serge Grusinski a choisi de retracer l'histoire de la mondialisation ibérique entre les années 1580 et 1640, qui correspondent à la génération succédant aux conquistadors ainsi qu'à l'apogée de l'Empire ibérique. Sans remettre en cause les acquis des études sur les dominations espagnoles et portugaises, l'auteur propose une réécriture plus nuancée de cette mondialisation ibérique par le truchement de textes de l'époque qu'il distille au fil des chapitres. Le plus emblématique est le passage du journal de l'Indien métis Chimalpaïn à la date du 8 septembre 1610. Je l'ai choisi parce que nous sommes particulièrement concernés. La nouvelle est arrivée d'Espagne à Mexico et notre Indien écrit « On a su qu'ils avaient assassiné le roi de France, dont Henri IV. » Même si l'assassinat d'Henri IV a touché les cours européennes, on n'imagine pas de le trouver évoqué dans un texte en langue des Aztèques. La nouvelle a mis 4 mois pour y parvenir. Grusinski montre par cet exemple comment fonctionne le processus de mondialisation qui doit tenir compte du décalage, mais aussi des chocs en retour des découvertes. D'ailleurs, les habitants du Mexique ne sont pas les seuls à s'intéresser à Henri IV. À la même époque, de l'autre côté du Pacifique, des peintres japonais représentent le roi Henri IV en compagnie d'autres princes du monde, notamment Charles Quint et le Grand Turc, contribuant à leur façon à la circulation planétaire des événements européens. Ainsi, déjà à cette époque, les nouvelles de France font le tour de la Terre. Mais le monde planétaire de l'Indien Chimal Payin, s'il comporte bien quatre parties, constitue un ensemble politique que l'on appelait la monarchie catholique, c'est-à-dire tous les territoires placés sous la houlette du roi Philippe II, Portugal y compris à partir de 1580, et ce qui fait écrire à Lope de Vega en 1618, on peut parcourir le monde en passant par les terres de Philippe. La circulation des hommes à travers les continents n'a cessé de s'accélérer au fur et à mesure des découvertes. L'accueil en Espagne d'intellectuels américains ou asiatiques, tels l'Indien Garcilaso de la Vega ou le petit-fils de l'empereur Moctezuma, montre que les relations se faisaient dans les deux sens, et l'auteur de rappeler les buts avoués des Espagnols comme des Portugais, à savoir le commerce des richesses et la christianisation des autochtones, c'est une manière de transformer les sociétés primitives. Ainsi, la transcription phonétique des langues indigènes comme le quechua ou le tupi, qui ne s'écrivaient pas auparavant, a bouleversé les habitudes au moment où les langues ibériques se mondialisent. Mais à leur tour, les Européens intègrent de nouveaux savoirs, en sciences notamment, avec la somme sur la botanique indienne du père Garcia da Horta ou encore la géographie et description universelle des Indes de López de Velasco. Ainsi, nous nous trouvons dans une situation de confrontation entre un oppresseur et un opprimé. Mais la chose n'est pas aussi claire. Et c'est la seconde partie de l'ouvrage de Serge Grusinski qui fait apparaître un monde intermédiaire qui n'est plus parfaitement espagnol, mais qui n'est pas encore latino-américain, où l'individu possède deux patries, celle de ses aïeux, celle d'adoption, ou encore celle de son souverain, celle de son lieu de vie. Serge Grusinski éclaire son propos par une série de portraits révélateurs. Par exemple, le parcours tumultueux de Pedro Sarmiento de Gamboa, personnage hors du commun. Espagnol né en 1530, après des études à Alcala puis à Séville, il fait des campagnes dans le Milanais et les Flandres avant d'arriver au Mexique vers 1555. Pour des raisons mystérieuses, il doit s'enfuir vers le Guatemala et le Pérou. Puis, en 1564, l'Inquisition de Lima le fait arrêter alors qu'il est au service du vice-roi, le comte de Nieva, car elle le suspecte de détenir des anneaux dotés de pouvoirs magiques. Mais notre héros rebondit. On le retrouve bientôt auprès du vice-roi Francisco de Toledo, chargé de consolider la domination espagnole au Pérou. Sarmiento de Gamboa a écrit une histoire des Incas. Il est un cosmographe réputé, par exemple il a calculé la différence horaire entre Séville et Lima. Il est donc un savant écouté et convoité. Il participe à de nombreuses expéditions dont l'exploration du Pacifique et va se heurter en 1570 aux expéditions anglaises qui menacent les côtes péruviennes. Sarmiento de Gamboa est chargé de sécuriser les côtes et les détroits. Une première expédition appareille en septembre 1579 et Gamboa, qui se retrouve poussé par les vents vers l'île d'Ascension, coupe la route des navigateurs portugais. Or, le Portugal ne sera sous domination espagnole que l'année suivante. L'accueil n'est pas chaleureux, mais le fait d'être passé par le détroit de Magellan force l'admiration des Portugais. Gamboa va en profiter pour faire du renseignement afin de connaître les mouvements des navigateurs anglais et français. Mais il prend ses précautions. « Votre Majesté, écrit-il, saura mieux ces choses que les nouvelles sûres qui viennent à travers la Nouvelle-Espagne. Je me borne à relater ce que j'apprends, car les princes doivent être fidèlement informés de tout ce qui peut les conserver. » Grusinski montre que la réunion des deux couronnes espagnoles et portugaises par Philippe II nécessite l'emploi d'agents, en quelque sorte des passeurs qui font la jonction entre le monde ibérique et le monde indigène. On pourrait penser que l'auteur développe alors la notion de métissage. Pas du tout. Le nouveau monde reste pour lui celui des dominants, à peine modifié par l'apport des dominés. Ainsi, la place accordée au métissage dans le processus de mondialisation est-elle réduite? Le domaine scientifique confirme cette carence des passeurs à intégrer et à transmettre les savoirs indigènes, surtout si ces derniers remettent en cause les savoirs européens. Serge Grusinski souligne aussi le rôle important joué par une nouvelle élite qui va se spécialiser dans la gestion des empires ibériques. Nommée dans des postes en Europe aussi bien que dans les territoires de l'Empire, les vice-rois, présidents de chancellerie, inquisiteurs et capitaines généraux sont les premiers responsables de la mondialisation de l'Empire des Habsbourg. Ces hommes viennent de tous les horizons. Lorsque le vice-roi du Pérou, Francisco de Borja y Aragon, s'installe avec son épouse à Lima, il est accompagné d'une suite de 74 personnes. Mais il est prince d'Esquilache, donc il est un grand d'Espagne. Un autre exemple, Martin Ignacio de Loyola. Lui, c'est le petit-neveu de Saint Ignace de Loyola. Ce franciscain va avoir le privilège d'annoncer aux Philippines l'avènement de Philippe II et l'union des deux couronnes. Il poursuivra son périple par la Chine pour finir à Buenos Aires, où il mourra. Il y jouera avant un rôle important dans l'évangélisation des autochtones et surtout dans l'organisation commerciale et le développement du port de Buenos Aires. Comme vous le voyez, l'auteur ne se limite pas à la mondialisation ibérique au domaine de la guerre, de la christianisation et du commerce, mais il dresse aussi la liste d'autres acteurs tout aussi importants. Par exemple, le poète Bernardo de Balbuena, qui exalte la domination de la monarchie espagnole dans son long poème « Grandeza Mexicana ». Cet homme, issu de la Mancha, comme Don Quichotte, a quitté l'Espagne pour le Mexique où son père a fait fortune. Il saura admirablement s'intégrer dans cette société composite de Mexico où l'on retrouve des créoles, mais aussi des militaires, des nobles d'Espagne et des inquisiteurs. L'Inca, Garcilaso de la Vega, dont nous avons déjà parlé, a su lui aussi conjuguer avec bonheur l'héritage andin et la tradition européenne la plus raffinée. Mais Serge Grusinski achève son livre sur un constat d'échec. Même si les passeurs, tels Garcilaso ou Balbuena, ont bien joué leur rôle, c'est toujours la pensée occidentale qui va prendre le pas sur les cultures ancestrales des Indiens. Et hors de la bulle occidentale, point de mondialisation. Il aura fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que l'on s'intéresse sérieusement aux visions des vaincus. Cet ouvrage, dont je viens d'évoquer les grands traits, s'intitule « Les quatre parties du monde, histoire d'une mondialisation ». C'est une œuvre qui a été couronnée par l'Académie des sciences morales et politiques, une œuvre de Serge Grusinski, publiée aux éditions de La Martinière et qui a 479 pages.